valeur HI 203 et 209, initiation à l'histoire du Moyen-Âge. 12e cassette, première phase présentée par Monsieur Neveu.
La vie intellectuelle. Il s'agit de la 12e cassette et ce sujet comprendra deux leçons, 23e et 24e. Le 14e et le 15e siècle sont une époque difficile pour les universités. Durement frappées par les événements politiques et par la conjoncture économique, elles connaissent également une baisse de la qualité intellectuelle. Les grandes synthèses théologiques appartiennent au passé, et les nouveaux courants contestent les fondements même de telles synthèses. C'est le cas en particulier du nominalisme que nous étudierons plus tard. Il y a donc à cette époque une réorientation générale. La théologie a moins d'importance que par le passé. En revanche, le droit est en progression considérable. En effet, on pratique de plus en plus dans les universités une formation professionnelle. Je mets évidemment le mot professionnel entre guillemets. On est au cœur de notre sujet qui est plus orienté vers les universités et plus particulièrement encore qui concerne les relations entre le milieu universitaire et le pouvoir au XIVe siècle. En effet, les gradués des universités sont de plus en plus utilisés par les différents pouvoirs. Au sein de l'Église, ils entretiennent des relations privilégiées avec la papauté, surtout au temps des papes d'Avignon, c'est-à-dire à partir de 1305 et jusqu'à la fin du XIVe siècle. Le pouvoir royal, quant à lui, s'appuie aussi sur le milieu universitaire. Il utilise des juristes, principalement, notamment depuis Philippe le Bel et ses fameux légistes. D'autre part, le roi a également des relations avec les universités encore. Le point culminant de cette évolution, c'est le grand schisme de 1378. L'avis des universités est alors sollicité. Et les universitaires auront un rôle prépondérant dans les conciles qui vont suivre. Concile de Constance d'abord, puis Concile de Bâle. C'est surtout vrai, d'ailleurs, pour les universitaires parisiens. Puisque nous parlons de Paris, voyons justement quelle est l'évolution des rapports entre Paris et les autres universités. Au XIVe siècle, Paris reste sans conteste la première université d'Occident. À la fin du XIVe et au XVe, Paris sera frappé directement, en revanche, par les événements, le grand schisme, plus tard l'occupation anglaise, etc. Par ailleurs, il y a de nombreuses créations d'universités en France et dans d'autres pays. Ces créations bénéficient de la relative décadence parisienne. Les universités du XIVe et du XVe siècle jouent donc un rôle essentiel, mais non exclusif, dans la formation d'une société politique en Occident, aux confins des pouvoirs temporels et spirituels. Je vous indique quel sera mon plan. Il comprendra trois parties. La première partie sera étudiée dans la première phase de la cassette, le réseau universitaire au XIVe et XVe siècle. La deuxième et la troisième partie seront étudiées sur la deuxième phase de la cassette. Il s'agira de l'évolution des structures, l'organisation, l'enseignement et enfin du mouvement des idées. Première partie donc, le réseau universitaire au XIVe, mais accessoirement au XVe siècle. Il est évidemment obligatoire de revenir quelque peu en arrière pour étudier la naissance des universités et en particulier des premières d'entre elles. Les universités sont nées au XIIIe siècle. Et c'est bien entendu Paris qui domine toutes les autres universités. En effet, à Paris existaient dès le XIIe siècle des écoles célèbres. Tout le monde connaît Abélard, professeur de ces écoles. En 1200, sous Philippe Auguste, le roi accorde aux maîtres et aux étudiants une charte les soustrayant à la justice royale, exercée normalement à Paris par le prévôt, au profit de la juridiction de l'évêque et du chancelier, c'est-à-dire d'une juridiction ecclésiastique. Cette décision, la première dans la marche à l'université, a lieu après une bagarre sanglante entre étudiants allemands et habitants de Paris. Il faut faire deux remarques à ce sujet. D'abord, le rôle des conflits, qui est très important dans l'histoire des universités. Et d'autre part, le caractère international, je mets ce mot entre guillemets, de l'université parisienne. Les autres étapes sont les suivantes. 1213, le chancelier, autorité ecclésiastique qui représente l'évêque, perd le droit de conférer la licence, autrement dit la permission d'enseigner, en latin licentia ubique docendi, permission d'enseigner partout dans le monde. 1215, ce sont les statuts du légat Robert de Courson. 1221, c'est la première apparition connue du terme université dans l'expression Universitas Magistrorum et Scholarium Parisiensium, ce qui signifie mot à mot la communauté, c'est le sens du mot université, la communauté des maîtres et des élèves, des écoliers de Paris. En revanche, quand au Moyen-Âge on veut utiliser le mot université au sens moderne, on ne dit pas universitas, mais studium generale. Autrement dit, école supérieure. L'étape suivante a lieu en 1229-1231. Les maîtres et les étudiants font la grève. C'est-à-dire qu'ils refusent de faire ou de suivre les cours. Et plus grave encore, ils font sécession. C'est-à-dire qu'ils s'en vont par groupe important ailleurs. Cette manifestation, qui a lieu après une nouvelle bagarre sanglante d'ailleurs entre étudiants et prévôts, aboutit au résultat escompté. En 1231, l'université est soustraite à la juridiction épiscopale. La dispersion, la sécession, aura des conséquences inattendues, puisque les maîtres et les étudiants se rendront dans d'autres villes, Angers, Orléans, et ces deux villes vont devenir, à la suite de cet événement, des villes universitaires. Angers ne sera reconnue comme université qu'en 1337, mais Orléans dès 1306, et on y étudiera essentiellement le droit civil, et qui n'est pas enseigné à Paris. C'est de cette époque, début du XIIIe siècle, que date l'organisation en faculté. Il y a à Paris 4 facultés, théologie, droit canon, faculté des arts et médecine. Le chef de la faculté des arts est le recteur élu pour 3 mois, et c'est lui qui est aussi le chef de toute université. Prenons d'autres exemples, et notamment celui de Bologne. L'université de Bologne, une des grandes universités d'Occident, après Paris, naît également au début du XIIIe siècle. Elle naît d'une université centrée sur l'étude du droit, droit civil et droit canonique. Et à la différence de Paris, qui est plutôt une université de maîtres, Bologne est une université d'étudiants. Ce sont les étudiants qui élisent les maîtres. Troisième exemple, celui d'Oxford. Là aussi, existaient des écoles anciennes. Et la ville d'Oxford était dans la dépendance de l'évêque de Lincoln, un évêque très lointain, puisque il séjournait à 120 milles. Et il est un petit peu indifférent à ce qui se passait à Oxford. Cependant, en 1208-1209, vous avez là aussi un conflit brutal entre les bourgeois et les étudiants, qui aboutit également à une sécession. Cette sécession oxonienne, c'est-à-dire sécession d'Oxford, aboutit à la fondation de Cambridge, l'autre grande université anglaise, qui ne sera reconnue officiellement qu'en 1318. Entre-temps, en 1214, Oxford recevra ses premiers statuts et le privilège des clercs, le privilège du fort ecclésiastique. Les maîtres obtiendront également que le chancelier de l'évêque de Lincoln, qui est le chef théorique de l'université, soit choisi parmi les docteurs. Quatrième exemple, c'est celui de Montpellier. Il s'agit d'une université assez particulière, d'une université de médecine, créée spontanément et qui profite de la seigneurie bienveillante des Guilhem, puis ensuite des rois de Majorque. Toutes ces universités, qui sont les plus importantes, sont nées spontanément. Mais bientôt, les autorités civiles et religieuses vont se rendre compte de l'importance de ces centres d'enseignement et de culture. Le mouvement de création commence au XIIIe siècle, mais il va s'épanouir au XIVe et même au XVe siècle. Voyons donc maintenant les nouvelles fondations. Et d'abord, les fondations du XIIIe siècle. En 1224, Naples est fondée par Frédéric II pour s'opposer à Bologne rebelle et à la papauté. Cette université ne s'épanouira que sous cet empereur, mais elle continuera néanmoins sous la dynastie angevine. En 1229, Toulouse est imposée au comte de la même ville, Raymond VII. C'est l'une des clauses du traité de Paris de 1229 qui met fin à la guerre des Albigeois. Cette université est créée évidemment dans le cadre de la lutte contre le catharisme. Il y a également des fondations ibériques en Castille, Palencia, Salamanque, Valladolid, à la première moitié du XIIIe siècle, mais seule Salamanque réussit véritablement. Au Portugal, c'est Lisbonne, fondée en 1288 par le roi Denis Ier, 1279-1325. Maintenant, les fondations du XIVe siècle. Les premières fondations sont assez modestes. Avignon, fondée en 1303 par Boniface VIII, elle ne sera prospère que lors du séjour des papes. Cahors, fondée en 1332 par Jean XXII, originaire de la ville, elle dura peu en réalité. Grenoble, fondée en 1339, qui est en dehors du royaume de France, elle est fondée par le dauphin Humbert II, elle végéta également. Orange, en 1365, c'est une université impériale fondée par l'empereur Charles IV. Sauf qu'alors, en dehors du royaume de France, Paris allait conserver sa position dominante dans le royaume et dans la chrétienté, jusqu'au grand schisme. En Angleterre, Oxford et Cambridge restent les seules universités. Dans la péninsule ibérique, l'université de Lisbonne est transférée à Coimbra, Coimbre en français, en 1308, qui restera la seule université du Portugal jusqu'en 1911. En Aragon, citons Lérida en 1300, Perpignan vers le milieu du XIVe siècle, USK en 1354. Dans l'Empire, signalons Prague en 1347 et Vienne en 1365. Voyons maintenant les universités nées du Grand Schisme. La double élection pontificale de 1378 allait nuire gravement au rayonnement international de certaines universités, et surtout de Paris. Quand Paris eut choisi Clément VII, de nombreux étudiants des pays partisans d'Urbain VI quittèrent la France. En fait, le mouvement concerna surtout l'Empire. Citons la fondation d'Erfurt en 1379, d'Heidelberg en 1385 et de Cologne en 1388. Le mouvement ne toucha pas la péninsule ibérique qui était clémentiste et pas plus l'Angleterre, pourtant urbaniste. Clémentiste signifie évidemment partisan de Clément VII et urbaniste partisan d'Urbain VI. Voyons maintenant un exemple particulier et tardif, mais qui nous intéresse de très près, c'est l'exemple de Caen. Dès 1424, le gouvernement d'Henri VI, dirigé par le duc de Bedford, qui occupe une bonne partie du royaume de France à cette époque, songea à créer une université en Normandie, une faculté des arts et de droit civil. Le pape Martin V autorisa la création le 31 mars 1424. Bien entendu, l'université de Paris, qui fait partie également du royaume d'Henri VI, est tout à fait hostile. Elle est déjà excédée par la création de l'université de Poitiers dans les terres contrôlées par le dauphin, futur Charles VII, et par le renforcement de celle d'Angers, les deux en 1431. L'université de Paris est d'ailleurs approuvée par le Parlement, par la prévôté des marchands, par le chapitre de Notre-Dame. Et pourtant, la création de la nouvelle université de Caen eut bien lieu en 1432. C'est donc un studium generale qui comporte un enseignement de droit civil et de droit canon, autrement dit deux facultés. La décision est prise en Normandie en présence du jeune roi Henri VI, qui a 10 ans à cette époque, et d'après le préambule des lettres royaux fondant l'université, on nous dit que Caen est choisi parce que c'est une ville, je cite, idoine, pacifique, sûre, comportant de notables monastères, collèges, couvents, abondamment peuplés par des gens très calmes, obéissants et dévots. Voilà sans doute la véritable raison du choix de Caen. Paris réagit très violemment. L'université proteste auprès du Parlement, par la voix de Guillaume Hérard. L'université envoie même deux messagers à Caen, Louis de Luxembourg, évêque de Thérouanne, et Pasquier de Vaux, chanoine de Rouen. Elle tente même de faire intervenir Philippe le Bon, duc de Bourgogne. Quelle est la réaction de Caen? La population est, semble-t-il, assez réservée, et car l'université suppose des charges financières. Quoi qu'il en soit, la nouvelle fondation va être définitivement renforcée par les événements extérieurs. En effet, en 1435, c'est le congrès d'Arras, si bien que les universités comme Louvain et Dole, qui étaient en territoire bourguignon, sont maintenant, en quelque sorte, en territoire ennemi. Et plus grave encore, en avril 1436, Paris se livre aux troupes de Charles VII. Caen devient donc, à cette date, la seule université du territoire contrôlée par Henri VI. Il devient urgent d'en parachever la création. Dès le 28 juillet 1436, se réunissent à Caen les États de Basse-Normandie. Ils sont dirigés par cinq commissaires royaux, en tête desquels on trouve Pierre Cauchon, le juge de Jeanne d'Arc, qui est alors évêque de Lisieux, puis William de la Pole, comte de Suffolk, Robert Jolivet, abbé du Mont-Saint-Michel, Thomas, Lord Scale, et Raoul le Sage, capitaine de Valognes et conseiller du roi. Les instructions de ces commissaires façon de rencontrer les représentants des trois bailliages de Caen, Alençon et Cotentin, et aussi du diocèse de Lisieux, c'est exactement la basse Normandie actuelle, pour discuter des réformes à entreprendre et parler de la fondation d'une université. Il résultera de ces états la création de deux nouvelles facultés, théologie et art, en 1436, plus une faculté de médecine en 1438. Nous sommes donc en présence à cette date d'une université complète avec cinq facultés. Il y a évidemment beaucoup de questions pratiques. Il faut trouver des locaux, choisir des maîtres, leur assigner des revenus. Les États accordent à la nouvelle fondation une part des 80 000 livres tournois de subsides octroyés au roi Henri VI. La confirmation définitive de l'université eut lieu en 1437. Le 15 février 1437, en effet, le bailli royal de Caen était confirmé dans sa charge de conservateur royal des privilèges de l'université. Et le 29 mai de la même année, 1437, une bulle de confirmation du pape Eugène IV établissait définitivement l'université. Le chancelier de l'université était chargé de conférer les grades. L'évêque de Bayeux, qui était depuis 1432 Zanon de Castiglione, était ce chancelier justement. Il était venu en Normandie à la tête d'un groupe d'Italiens, notamment son cousin Giovanni Castiglioni, collecteur pontifical en Angleterre, Rolando et Antonio Talenti, son secrétaire, et tous les deux étaient professeurs de droit à l'université de Caen. Le 17 mai 1439, le pape désigne des conservateurs des privilèges apostoliques. Ce sont les évêques de Lisieux, c'est-à-dire Pierre Cochon, et de Coutances, c'est-à-dire Philibert de Monjeu. Le 26 mai 1439, l'université reçoit ses statuts d'Henri VI. Enfin, le 20 octobre 1439, c'est la solennelle inauguration en l'église Saint-Pierre. Parmi les présents, on note des Anglais, bien entendu, Andrew Hogar, capitale de Caen, Robert Redford, c'est son vrai nom, bailli d'Alençon, William Neville, Lord Fauconbert, etc. La messe est dite par l'abbé de Saint-Étienne et on chante un Te Deum. On ne sait rien de ce qui se passe entre 1436 et 1439. Il n'y a aucun texte, cela ne signifie pas qu'il n'y eut aucune activité. En tout cas, un des premiers professeurs est un personnage fort intéressant, c'est Thomas Bazin. Il a eu un début de vie très mouvementé puisqu'il est né en 1412 à Caudebec-en-Caux, une famille de riches bourgeois. En 1418, il est obligé avec sa famille de s'enfuir à Nantes. Sa famille revient en 1419 à Caudebec sous l'occupation anglaise. Il fait donc ses études d'abord à Paris pour les arts, puis à Louvain, en Brabant, pour le droit civil. Ensuite, entre 1437 et 1441, à Bologne, puis à la cour pontificale. Thomas Bazin était devenu en Italie le protégé du vieux cardinal Branda Castiglioni, qui était l'oncle de Zanon, évêque de Bayeux. En 1441, il revient dans la Normandie, sous le règne d'Henri VI. Thomas Bazin pouvait être utile à Zanon, et Zanon pouvait faire la carrière de Thomas Bazin. La phrase est de Bernard Guénet, qui a écrit récemment sur ce personnage. En octobre 1441, Thomas Bazin est effectivement nommé professeur de droit canon à l'université, et bientôt il sera titulaire d'une chaire de l'un et l'autre droit, c'est-à-dire droit civil et droit canon. Il va faire ensuite une rapide carrière, il sera chanoine de Bayeux, official, vicaire général de Bayeux. Finalement, en 1442, il sera élu recteur de l'université de Caen, et en 1447, il deviendra évêque de Lisieux à l'âge de 35 ans. Peu de temps après, en 1449. C'est lui qui opérera la reddition de la ville à Charles VII. Quant à Pierre Cochon, ses prédécesseurs évêques de Lisieux, il était mort en 1442. Mais dans son testament, il n'avait pas oublié Caen. Il avait voulu assurer l'entretien de deux écoliers dans l'université, c'est-à-dire 1000 livres pour acquérir 48 livres de rente. Cependant, il n'était pas certain de la pérennité de la nouvelle fondation à laquelle il avait beaucoup participé. Aussi, l'exécuteur testamentaire était autorisé à transférer ailleurs cette donation si la dite université était transférée. Cette fondation sera difficile à réaliser car les héritiers de Pierre Cochon renacleront et son exécuteur testamentaire devra leur racheter une maison acquise pour exécuter la fondation en 1470. En tout cas, l'inquiétude posthume de Pierre Cochon était vaine. L'université surmonta l'épreuve de la reconquête. Le 24 juin 1450, c'est la reddition de Caen. Et dès le 30 juillet de la même année, Charles VII tolère provisoirement l'université. Enfin, le 30 octobre 1452, c'est la recréation de l'université avec ses 5 facultés et le pape de l'époque, Nicolas V, envoie une bulle de confirmation. Seule pièce conservée aujourd'hui en original à l'université, dans la salle des professeurs de la bibliothèque. Ainsi, l'université de Caen est l'exemple même d'une fondation due à la conjoncture politique. Elle n'est pas la seule, mais son exemple est particulièrement caractéristique. Si elle a pu se maintenir, c'est que les circonstances étaient favorables et qu'elle se trouvait au centre d'un riche duché, jusque-là démuni d'université. On peut dire en conclusion de cette première partie que les universités du XIVe et du XVe siècle sont donc fondées sur le modèle de celles du XIIIe siècle, qui sont les pionnières et en particulier, bien entendu, Paris. Cependant, elles connaîtront par la suite une importante évolution sur le plan de l'organisation et de l'enseignement. C'est ce que nous étudierons sur la seconde face de cette cassette.